Radio Capi, grand témoin.
Elle est la coordonnatrice de la Coalition des femmes pour la paix et le développement. Florence Boloko-Mularika est l'invitée de grand témoin. Florence Boloko, soyez la bienvenue.
Merci beaucoup.
Je sais bien que vous aimez qu'on vous appelle maman.
Oui.
Mais ce serait que pendant l'émission, qu'il arrive que je vous tutoie.
Non, c'est
ça
pas
vous dérange.
Problème. Je me dis qu'on se connaît depuis un bout de temps, on peut se tutoyer, c'est pas grave.
Avec vous, nous parlerons de l'implication des femmes dans la recherche de la paix et le développement. Comme d'habitude, nous vous ferons réagir par rapport à un sujet d'actualité, mais aussi nous vous convions à la rubrique surprise au cours de l'émission. Je vois Florence Boloko qui cligne les yeux. Pour commencer, parlons de vous. Florence Boloko peut-elle nous parler de l'endroit qu'il a vu naître?
L'endroit qui m'a vu naître, c'est Bongayasa, dans le Bandundu. C'est un coin perdu, mais c'est un grand hôpital de référence où il y avait la regrettée Madame Verhoeven qui venait de décéder il y a de cela quelques années. C'est un coin sympathique où j'ai passé quelques années de mon enfance.
Vous y avez passé quelques temps de votre enfance. Quels souvenirs vous gardez de cet endroit?
Bon, des souvenirs d'enfants. On était des enfants, des tout petits enfants. Innocent, sans problème, dans un coin paisible, où il faisait bon vivre, il n'y avait pas de problème.
C'est toujours dans le Bandundu où vous faites vos études primaires et secondaires. Vous décrochez votre diplôme d'état en option littéraire. Quelle ambition aviez-vous en choisissant cette option?
Je voulais faire la section littéraire parce que j'avais un modèle, une sœur aînée que je voulais absolument imiter, que son âme repose en paix. Malheureusement, elle est déjà décédée. Mais je voulais aussi faire la section littéraire parce que j'étais fascinée par des gens qui parlent bien, qui s'expriment bien en français. Et ça me fascinait et je m'étais dit que je ferais la section littéraire pour moi aussi bien parler. Bon, je ne sais pas si je parle bien, si je fascine aussi. Mais en tout cas, j'étais fascinée par des gens qui parlaient bien. Bon, voilà.
Bon, je pense que les auditeurs ne me contrediront pas. Vous parlez bien.
Merci beaucoup. Merci pour le compliment.
Alors, de manière générale, qu'est-ce que vous retenez de votre jeunesse?
De manière générale, j'ai passé une jeunesse très, très paisible dans une famille unie, un papa, une maman, des enfants, des grands-parents qui nous adoraient, qui étaient bien avec nous. Bon, et malheureusement, mon père est mort très, très tôt et cela nous a brutalement, comme ça,
secoué,
laissé sans l'autre appui, et nous n'avions que notre maman et nos grands-parents qui étaient sympathiques, qui étaient vraiment très affectueux avec nous, qui nous ont conduits, qui nous ont guidés jusqu'à devenir ce que je suis. Il y a mes tantes aussi, à qui je pensais, qui ont été de beaucoup dans mon éducation aussi, et je garde un bon souvenir.
Et le défunt papa a été directeur d'hôpital.
Au fait, dans le temps, on appelait ça assistant médical. Oui, agent sanitaire. C'était ça, quelque chose comme ça. Il y avait la coordination de tout cela.
Pouvez-vous rappeler les noms de certains collègues de promotion que vous avez encore à l'esprit, certainement?
Ah, les noms des collègues de promotion, je pense tout de suite à Béatrice Mboutamontou, je vois Godlive Lapou, je vois Charlotte Kanama, je vois Marie-Ange Luciana, je vois Justine Capaille, je vois Marie-Josée Matumbu, je vois mes amis d'enfance, hein, c'est ça.
Ouais.
Je vois Brigitte Mukomene, je vois Brigitte Musindondo, je vois Janine Boulou, je vois la liste est tellement longue que je ne pourrais
pas.
Elle n'est pas exhaustive.
Je vous sens en parler avec beaucoup de joie. Hein. C'était une belle époque de votre vie. Hein.
Oui, c'était une très belle époque de notre vie, surtout l'école secondaire. Il y a des amis qui m'ont vraiment marqué.
Mais à vous voir, vous donnez l'impression de quelqu'un de très bouillant. Vous l'étiez dans la jeunesse?
Je le suis resté. Je suis très bouillante. Ça, les gens me le disent, je suis bouillante. Mais oui, pendant ma jeunesse, j'étais bouillante. Parce que j'ai étudié chez les religieuses. Chaque fois qu'on voulait punir, j'étais pas en tout cas parmi les élèves qu'on détachait du lot.
Vous étiez parmi les meneurs.
J'étais parmi les fauteurs de troubles.
Radio Capi, grand témoin.
Elle est coordonnatrice de la Coalition des femmes pour la paix et le développement. Florence Boloko-Mularika est l'invitée de Grand Témoin. Florence Boloko, c'est en 1981 que vous décrochez votre diplôme de licence en lettres à l'Université de Lubumbashi. Vous espériez trouver de l'emploi dans quel secteur en faisant les lettres?
En fait, moi, d'abord, avant d'aller à l'université, je voulais faire le droit. Mais je devais aller absolument à Lubumbashi où il n'y avait pas de droit et j'étais obligée de choisir de faire les lettres.
Donc c'était faute de mieux.
Oui, c'était faute de mieux parce que s'il y avait le droit, en ce moment-là, à Lubumbashi, j'aurais fait le droit. Mais malheureusement, il n'y avait pas de droit, mais je devais aller là-bas, je devais aller me ressourcer aussi à cette autre source. Et j'étais obligée d'aller à Lubumbashi et j'ai fait les lettres. Bon, à la fin, j'ai pensé, parce que j'avais aussi un autre modèle, hein, une dame qui est décédée aussi, Marianne Sindidi, elle était journaliste. Elle me fascinait beaucoup, je me disais, elle a fait les lettres aussi. En fait, elle était à Kikuit-Sacré-Cœur, elle est allée elle aussi à Lubumbashi, et je me disais que j'allais faire moi aussi le journalisme comme elle. Mais en arrivant ici, à la fin de mes études, bon, c'était pas le cas. Je pouvais plus faire le journalisme parce que ça ne m'enchantait plus. Je voulais, au contraire, trouver un travail dans le secteur bancaire. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. J'ai embrassé la carrière d'enseignante.
Vous travaillez pendant près de 7 ans, nous le disions, comme professeur de français à l'Institut technique et industriel de Njili, à Kinshasa. Que pouvez-vous dire de la langue française en RDC aujourd'hui?
La langue française en RDC aujourd'hui, elle est massacrée, je dirais. Surtout avec la jeunesse actuelle, la langue est massacrée, on ne sait pas exactement qui dit quoi, quel est l'article qu'on utilise et tout. Pourtant, nous sommes parmi les plus grands espaces francophones et donc on devrait promouvoir la langue française. C'est vrai que, bon, il y a l'anglais qui prend du terrain, il ne nous est pas interdit d'apprendre l'anglais, il ne nous est pas donc interdit d'être bilingue et donc nous devons absolument faire des efforts pour soutenir le niveau du français parce que le niveau de gringola, essayer de lire une lettre qu'un enfant a écrit, même celui qui est à l'université aujourd'hui, vous verrez que c'est vraiment du massacrage du français. Ça remue Voltaire dans sa tombe.
Et à votre avis, que faire pour relever ce niveau?
Moi, je pense qu'il faut d'abord refaire les manuels, je ne dirais pas. Mais c'est un problème de volonté des enfants. Parce que le français, on ne l'apprend pas à l'université. Moi, bien que j'ai fait les lettres, je ne pense pas que j'ai appris le français à l'université. À parler français, attention, à parler français. Je n'ai pas appris cela à l'université, mais j'ai appris par la lecture. Parce que j'ai étudié dans une très très bonne école où on nous obligeait à faire la lecture. On avait des livres de lecture et c'est comme ça qu'on se forme. Je me demande bien aujourd'hui, nous n'avons plus la culture de la lecture. Nous n'avons plus cette culture-là. Je ne sais pas combien d'enfants lisent encore aujourd'hui. Même ceux qui sont à l'université, c'est à l'occasion juste des recherches de mémoire qu'ils vont aller lire. Et encore, ce sont des vieux mémoires auxquels ils vont recourir pour essayer d'écrire. Mais qu'est-ce qu'ils écrivent là-dedans? Quand j'étais professeur de français, bon, mes élèves qui me suivent savent que j'étais très très rigoureuse. Je me rappelle encore, il y a un garçon qui avait 87%, mais à qui j'avais fait reprendre la classe. C'était une école de la coopération belge, j'avais plein de coopérants belges là-dedans. Et je lui avais fait reprendre de classe parce qu'il était très très faible en français. Mais après, des années après, il m'avait donné raison. Il m'a dit, madame, vous aviez raison quand on s'est rencontrés. Il m'a dit, madame, vous aviez raison de me faire reprendre des classes. Et maintenant, c'est vrai qu'en ce moment-là, je vous avais peut-être tenu rigueur, mais maintenant, je me dis que vous aviez raison parce que j'ai appris plein de choses après et tout, mais c'est regrettable. Le français est massacré. On remue tout le temps Voltaire dans sa tombe.
Mais pourquoi vous avez quitté l'enseignement?
Parce que je voulais trouver mieux, moi aussi. Vous savez que l'enseignement ne paye pas son nom. Alors, l'enseignant, c'est le parent pauvre et le clochardisé. Je ne voulais pas m'éterniser là-dedans pour être clochardisé et vivre tout ce qu'il y a comme misère que connaissent nos enseignants, alors que c'est le métier de base, c'est eux qui sont là en dehors du passé. C'est le second parent que l'enfant rencontre dans sa vie, mais on ne s'en occupe pas dans notre pays. Et c'est vraiment dommage. Et c'est ce qui m'a fait partir parce que, bon, ça c'est des parents pauvres.
Vous avez encore travaillé dans la fonction publique, mais cette fois-ci au ministère de la condition féminine et famille et de la culture et art. Quel était votre travail?
Bon, à la condition féminine et famille, j'étais chef de bureau dans le bureau du secrétaire général, Madame Chuchungambo, une dame pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Et après cela, c'est avec elle encore que j'irai à la culture et aux arts où j'étais chef de division à l'inspection, tout ce qu'il y a comme maison de culture, essayer de voir s'il paye les taxes ou comment ça se passe et tout. Voilà, c'est cela.
Finalement, vous quittez encore la fonction publique. Pourquoi? Vous ne trouviez toujours pas votre compte?
Et finalement, je quitte la fonction publique parce que, une fois de plus, je m'étais rendu compte que, qu'à l'instar de l'enseignement, la fonction publique ne payait pas le fonctionnaire convenablement et qu'on ne pouvait pas vivre décemment en s'éternisant dans la fonction publique. Et je me suis dit que j'allais essayer ailleurs et c'est pour ça que je me retrouve dans le développement.
Vous venez d'en parler, après la fonction publique, vous vous lancez dans le monde associatif. Parlez-nous de votre parcours dans ce domaine.
Dans le monde associatif, j'ai commencé à l'Union nationale des femmes. Une an sans sigle, où j'étais d'abord secrétaire permanente, et puis je suis devenue chargée de programme. Et après, au départ de Madame Lukiana comme ministre, quand elle est allée au gouvernement, moi je l'ai remplacée comme présidente, mais c'était un poste à mandat, et j'ai fait mon mandat, et je devais partir après. Et c'est comme ça que j'ai quitté.
Vous êtes aussi membre de WOPA.
Je suis même parmi les pionniers de
la coordonnatrice.
De oui, actuellement, je suis la coordonnatrice après, une fois de plus, le départ de Mme Élisée Dimandja à l'Assemblée nationale. Quand elle a été élue députée, c'est moi qui coordonne aux destinées de WOPA.
De quoi s'occupe WOPA?
WOPA s'occupe de la promotion de la paix. Nous faisons la promotion de la paix et des droits des femmes.
Nous avons contacté une personne qui vous connaît. Je vous invite, Florence Boloko, à suivre le témoignage qu'elle fait de vous.
Je suis Madame Faïda Mwangilwa, je suis le ministre honoraire de la condition féminine et famille.
Madame Faïda, connaissez-vous Madame Florence Boloko?
Oui, oui, je connais très bien Madame Florence Boloko. Depuis un certain temps, on est devenus des amis par rapport au travail.
Ça fait à peu près combien de temps, si ce n'est pas un secret?
Non, c'est pas un secret, ça fait pratiquement jour pour jour 5 ans.
Pouvez-vous nous raconter une anecdote par rapport à vos relations avec Madame Florence Boloko?
Tu sais, je l'ai connue à un moment tout à fait particulier. On était dans le cadre du processus de paix à RDC avec le gouvernement de transition qui connaît tout ce qui s'est passé avec les composantes et entités. Et alors, on raisonnait par rapport à ça. Tu parles à quelqu'un, non, il faut pas parler à telle parce qu'elle est celle-ci. Faites attention, elle risque de t'induire en erreur. Voilà, mais en fait de compte, j'ai découvert que c'était une brave femme, une femme du travail qui a vraiment la passion de ce qu'elle fait dans le cadre de la promotion de la femme.
Tout ça, c'est beaucoup d'éloges, mais qu'est-ce que vous n'aimez pas chez elle? Elle n'est pas parfaite.
Elle n'est pas parfaite, mais à un moment, je me dis qu'elle n'est pas aussi flexible. Deux fois, si elle a une idée en tête, si elle va lui dire, voilà, est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Non, Madame Faïda, je pense, elle l'a dit tout doucement. Tout doucement, elle ne va pas changer. Vous allez perdre du temps. Elle résiste, elle persiste. Mais en fin de compte, vous n'arriverez pas à vous attendre. Donc, elle sait arracher ce qu'elle veut, mais aussi très difficilement.
Et qu'est-ce que vous aimez chez elle?
De toute façon, elle n'est pas conflictuelle. C'est une femme qui n'est pas conflictuelle. C'est une femme qui n'a pas de caprices et de femmes parce que, tu vois, le féminisme là exagéré. Tout, tu raisonnes par rapport aux faiblesses et tout. Et ça, vraiment, c'est exceptionnel. Elle, s'il faut travailler du matin au soir, elle ne va pas te dire qu'elle est fatiguée. Vous allez travailler jusqu'au bout. Et c'est ce que j'aime en elle. Vraiment, j'apprécie cela.
Pouvez-vous lui dire un dernier mot pour clôturer cet entretien?
Ce que je lui dis, c'est qu'elle ne se fatigue pas. Le travail est immense. Le travail de promotion de droits de la femme, de l'amélioration du statut de la femme. Je crois que c'est du travail et il faut qu'elle demeure vraiment très engagée. Il ne faut pas qu'elle se décourage. Le chemin est long, mais on arrivera par décrocher ce qu'on veut de la promotion de la femme.
Merci Madame Faïda, Fabiola Mwangilwa et au revoir.
Merci.
Florence Boloko, je vous ai vu plusieurs fois rire. Hein? Vous avez une réaction?
Oui, une réaction. Effectivement, je l'ai connue pendant un moment vraiment trouble. Je venais de quitter du NAF. J'étais un peu désemparée. Ça, je peux pas me le cacher. Je savais que faire. Mais bon, Il y avait le processus de la conférence internationale des grands lacs qui s'ouvrait. Et j'avais déjà, en tant qu'experte, participé à certaines conférences, à certaines réunions. Et bon, elle m'a découverte, on a travaillé. Bon, c'est vrai que je l'avais rencontrée à Nairobi pour la première fois. Lors du processus du dialogue intercongolais. Après, bon, de temps en temps, on se rencontrait à Sun City, mais ça, sans trop d'acquaintance entre nous, mais à Kinshasa, quand elle était ministre, c'est une femme que j'apprécie beaucoup, une femme que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup aidée. Et je lui suis très reconnaissante.
Mais Florence Boloko, quand elle veut quelque chose, elle l'obtient.
Oui, Florence Boloko, quand elle veut quelque chose, elle l'obtient quand elle est dans ses droits. En tout cas, là, elle s'arroge tous ses droits pour pouvoir obtenir ce qu'elle a besoin d'obtenir.
Vous avez opté pour le monde associatif. Le monde associatif vous nourrit-il?
Oui et non. Le monde associatif me nourrit. Le monde associatif ne me nourrit pas. C'est comme partout. Où est-ce qu'on nourrit? c'est nulle part ailleurs. Dans ce pays-là, qui est nourri?
Moustique, moustique, tu es un bonnet. Moustique, moustique, tu es un assassin. Tu me piques, moi je dors pas. Ah, tu es un salaud. Tu viens chanter à mon oreille pour te voir le faire. Ah, tu es un chien. Tu es tout petit, tu gaffes les gants. Ah, tu es un salaud. Tu n'as pas ma moustiquaire pour ton rendez-vous. Ah, tu es un étude. Tu suces mon sang toi-même dans les usines où l'on fabrique du vin rouge. Je vais te porter plainte au tribunal chez monsieur le juge. Tu piques mon femme sans payer à Dieu le terre. Ah, tu es un écho. Tu piques le roi, tu piques ses ministres. Oh, tu es un anarchiste. Tu trompes la sentinelle, tu vas piquer monsieur le président. Oh, tu es un foutiste. Moustique, moustique, tu es un assassin. Je suis romantique, tragique, et tu es impudique. Tu chasses une européenne, tu piques africaine, ah tu es un raciste. C'est la mairie du monde, lutte contre toi, mais tu es toujours vivant. Elles vont pas les insecticides, l'acide, mais tu es invincible. On a inventé les bombes pour tuer l'humanité, monsieur le moustique, on n'arrive pas. Tu es dans les mares, tu es dans les jars, et tu es dans les bars. Tu mets dans le paludisme, la mort et la misère. Tu me donnes la fièvre qui me fait fondre les lèvres pour que je ne mange plus la chèvre. Moustique, moustique, ah, tu es un assassin. Moustique, tu es un bonnet. Moustique, moustique, oh, tu es un salaud.
Ah, moustique, tu es un bonnet, moustique.
Tu piques même le roi, tu es un bonnet, moustique.
Ah, moustique, tu es un salaud, moustique.
Tu piques même le pape, tu es un péché, moustique. Tu piques même l'imam, tu es un grand païen, moustique.
Ah, moustique, tu es un salaud, moustique.
Tu piques même le malade, et ma salade, moustique.
Ah, moustique, tu es un bonnet, moustique.
Je veux t'accuser, je vais filmer du quartier.
Ah, moustique, tu es un salaud, moustique.
Je veux t'accuser, là-bas à l'homme.
Ah, moustique, tu es un bonnet, moustique.
J'irai dire ça chez le docteur Couchner.
Ah, moustique, tu es un salaud, moustique.
Je vais te porter plainte chez les médecins sans frontières.
Mais ça, c'est quoi ça? Ça fait avec ça? Hé, militaire! Tiens le temps de l'eau!
Radio Capine, grand témoin.
Florence Bolokomularika, coordonnatrice de la Coalition des femmes pour la paix et le développement, est aujourd'hui l'invitée de Grand Témoin. Florence Boloko, c'est depuis 2004 que vous coordonnez la Coalition des femmes pour la paix et le développement. Que fait concrètement votre association?
La Coalition des femmes fait la promotion de la paix, mais nous la faisons au niveau de la base. Parce que nous nous disons que autant ça s'embrase au sommet de l'État, autant ça s'embrase entre deux, trois pays, autant aussi au niveau de la base, il y a des problèmes.
La base, c'est la famille, le quartier.
Oui, même la famille, le quartier, les individus qui sont des simples gens, entre eux, il surgit des querelles. Hein, il arrive qu'il y ait des mésententes, qu'il y ait des différends qui éclatent entre individus. Par exemple, entre un agriculteur et un éleveur, on peut rencontrer des problèmes. Et donc, comment ils vont résoudre? Ils vont attendre d'aller au tribunal, mais non. Ils vivent dans une même communauté. Ils peuvent bien se trouver un modus vivendi, régler leurs problèmes, et puis continuer après leur petit bonhomme de chemin. Et c'est comme ça que nous travaillons dans la formation des artisans de paix au niveau de la base. Nous travaillons donc avec les gens au niveau de la base, avec la base, c'est-à-dire que entre gens entre individus, c'est pas toujours rose. Il peut arriver qu'il y ait un problème.
Des conflits, des malentendus,
des incompréhensions, ça peut surgir. Mais il faut savoir aussi régler cela, harmoniser les points de vue, arrondir les angles et continuer le petit bonhomme de chemin.
Mais quelle méthode vous utilisez pour arriver à cette fin?
Nous utilisons la sensibilisation et la formation.
Avez-vous quelques résultats palpables que vous avez déjà enregistrés sur terrain, dans un coin donné par exemple, où vous vous dites nous avons sensibilisé tel coin, il y a moins de conflits par rapport à tel autre coin?
Je ne dirais pas qu'il y a moins de conflits par rapport à tel autre coin. Par exemple, nous autres, nous travaillons avec Kimbanseke et Malueka. Et dans ce travail de sensibilisation et de formation des artisans de paix, à la base, les conflits, c'est pas dit que quand vous avez réglé un conflit aujourd'hui, après, c'est la paix, de la paix indéterminée, indéfiniment, mais ce sont des petits conflits qui ressurgissent, des petits malentendus, des petites incompréhensions qui ressurgissent entre les gens, et il faut savoir les amener à régler ce problème. C'est-à-dire que vous avez un modèle, vous leur dites, écoutez, ça peut vous arriver de ne pas vous entendre, ça peut vous arriver qu'il surgisse un malentendu entre vous, mais vous devez arriver à harmoniser les vues pour après continuer votre petit bonhomme de chemin. Par exemple, deux voisins de quartier, ils sont condamnés à vivre là-bas. L'un et l'autre sont propriétaires de ces parcelles-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, des malentendus, peut-être que cette fois-là, si ce sont deux papas qui en sont arrivés à des empoignades, mais il peut arriver aussi que ce sont les mamans parce que l'assiette de l'autre a été cassée de l'autre côté ou le verre, ou je ne sais pas moi quoi.
Et
une troisième fois, ce seront des enfants. Et tout cela, donc, ce qu'il faut, c'est leur donner un modus vivendi. Donc, grosso modo, qu'il faut savoir régler ces petits conflits qui vous arrivent au sein de la société.
Est-ce que la Coalition des femmes pour la paix et le développement est représentée en province?
La Coalition des femmes pour la paix et le développement n'est pas représentée dans toutes les provinces. Nous sommes au Katanga où nous avons un point focal, nous sommes dans le Bandundu où nous avons un point focal, nous sommes dans les deux Kivu où nous avons des points focaux, nous sommes à l'Équateur et nous sommes au Kasaï occidental. Nous sommes dans six provinces.
Pourquoi ne vous adressez-vous pas directement aux décideurs, hein, les autorités politiques, puisqu'elles sont aussi à l'origine de plusieurs conflits, hein?
Les décideurs, on s'adresse à eux par le plaidoyer. Au sein de notre réseau WOPA, c'est le travail que nous faisons. Mais allez fouiller les annales et vous verrez quel est le travail formidable que WOPA avait abattu à San City. WOPA a énormément fait à San City pour essayer d'amener les uns et les autres à harmoniser leur point de vue. Il y avait tout le temps des grognes dans tel groupe et ils quittaient la salle. Ils disaient, bon, nous on ne participe plus, on n'est plus avec vous, ils se désengageaient. Mais après, on est allé voir tous ces groupes-là pour essayer de ramener la paix pour que le dialogue intercongolais aboutisse. Et donc, pour ce qui est des décideurs, ce sont des grandes actions et nous les faisons en synergie avec d'autres organisations telles qu'avec WOPA, telles qu'avec Cause Commune, qui est dans le leadership de la femme. Par exemple, quand on veut obtenir quelque chose, on ne va pas aller de manière isolée. Non, on fait un travail en synergie pour arriver à obtenir quelque chose.
Et la coalition ne s'adresse qu'aux femmes ou aux hommes aussi?
Non, les gens, c'est hommes et femmes. Hein. C'est la complémentarité, c'est pas seulement. Et d'ailleurs, je vous dirais que nous avons des hommes aussi au sein de l'exécutif de la coalition des femmes.
En rapport avec les conflits à Florence Boloko, des affrontements avaient opposé lundi 28 janvier dernier des troupes du CNDP de Laurent Kunda aux combattants de Pariko dans les villages de Kasike et Kisonga près de Ngungu, à plus de 50 km au sud-ouest de la ville de Goma. Au sujet de ces affrontements, le Pariko affirme que ce mouvement est déterminé à respecter le cessez-le-feu. Son porte-parole souhaite voir le CNDP mettre un terme, je cite, à ces provocations. Didier Bitaki était au micro de Rosalie Zawadi.
Nous réagissons quand nous sommes provoqués. Nous n'avons jamais quitté nos positions pour provoquer une quelconque position de la part de l'ennemi. Mais on nous avait provoqué. Nous avons fait appel, nous avons dit à Malou Malou et à Vital Kamerhe quand ils étaient ici que voilà ce qui se passe sur le terrain. Il fallait qu'ils interpellent le sein de terre. C'est de cesser le déploiement, de cesser le recrutement et même les provocations sur différents fronts. Malheureusement, ça a été le cas. On devait se défendre et c'est ce que nous avons fait. En allant vers Pinga, après Pinga, vous allez jusqu'en Toto. Nos troupes étaient là et elles étaient bien posées. En attendant le mot d'ordre, parce que nous avons lancé un cessez-le-feu définitif que nous avons nous-mêmes reçu. Malheureusement, on a constaté qu'il était en train de se déployer sur terrain et en se déployant, il s'est heurté à l'opposition. Qu'est-ce que nous devrions faire? On devait se défendre.
En réponse, le CNDP avait déclaré qu'il ne s'agissait pas des violents combats entre ses troupes et celles du PARECO. Le secrétaire rapporteur du bureau politique du CNDP affirmait alors que tous les groupes armés et même le CNDP sont déterminés à mettre fin à la guerre. Bertrand Bissimois l'avait dit à Moïse Mutungalukube.
Je crois que là où il y a deux forces qui se regardent, parfois il suffit qu'une petite étincelle puisse avoir lieu pour que des petits accrochages aient lieu. Et moi je mets tout ça dans les comptes des derniers accrochages qui peuvent avoir lieu pour que finalement la paix puisse s'instaurer. Mais je pense qu'avec le profil de désengagement et de la création des zones tampo, je crois que les choses vont aller pour le mieux. Il faut se dire que ce ne sont pas peut-être des combats qui sont très violents ou des combats qui sont voulus. Ça doit être des escarmouches sûrement qui ne peuvent pas ne pas avoir lieu après la signature de l'accord. Mais je pense que toutes les parties ou tous les groupes armés qui ont été signataires de l'accord sont unanimes, qu'il faut faire la paix et qu'il faut mettre fin à la guerre.
Rappelons que ces affrontements avaient eu lieu quelques jours après la signature de l'acte d'engagement le 23 janvier dernier à la conférence sur la paix, la sécurité et le développement des Kivu à Goma. Florence Boloko, coordonnatrice de la coalition des femmes pour la paix et le développement, quelle est votre réaction?
La signature des accords de paix est une chose, mais la réalité qu'on vit sur terrain en est une autre. C'est-à-dire que c'est pas de manière automatique, parce qu'on a signé des accords de paix que sur le terrain, tout aussi va aller pour le mieux. Non, l'application, moi je pense que c'est progressif. Eux, d'abord, en tant que seigneurs de guerre, ceux qui viennent de signer ces accords-là, ils doivent intérioriser, ils doivent vivre cette paix-là, avant de pouvoir la transmettre aux autres. Et donc, ce qu'ils doivent faire, c'est un grand travail de sensibilisation, ce n'est pas fini. Au sein des populations, à la base, qui n'ont peut-être pas eu le temps d'envoyer des délégués à cette conférence-là, mais c'est une cause commune qui les concerne tous. Et donc, il y a d'un côté la signature des accords, et de l'autre côté, il y a aussi la situation sur terrain qui doit être harmonisée avec la signature des accords. C'est-à-dire que les seigneurs de guerre, eux, maintenant, ils doivent se dire, ils doivent intérioriser cette paix-là, dire, écoutez, maintenant, finit la guerre, et c'est pas du jour au lendemain que l'on va rencontrer, bon, je sais pas moi, telle faction et telle autre faction, aller s'embrasser, se donner des accolades parce qu'ils venaient de signer des accords. Il y a deux relents qui restent encore, et il y a un travail de réconciliation terrible, fort, qu'il faut absolument faire pour arriver réellement à cette paix qu'on vient de signer sur les papiers.
Donc si je vous comprends, il faudrait laisser le temps à toutes les factions, le temps d'intégrer la paix, le temps de sensibiliser leurs troupes.
Oui, pas seulement les factions, mais tous les acteurs en présence. Tous ceux qui étaient à Goma, la société civile, en principe, maintenant, c'est un travail qui revient à la société civile. Un grand travail de sensibilisation. Un grand travail de sensibilisation qui doit aller vers les populations à la base, qui doit aller vers les différentes factions rebelles, ceux qui hier étaient des antagonistes, mais qui aujourd'hui ont fumé le calumet de la paix et qui doivent chercher désormais à regarder vers la même direction et à mettre fin à tout cela. Il y a la conférence de Grand Lac. On a signé les accords au mois de décembre, le 16 décembre 2006 à Nairobi. Et vous allez me dire que tout de suite, on a mis en application, la mise en œuvre a déjà commencé. Non, il y a un grand travail à faire. Il y a d'abord les parlements de tous les 11 pays du champ qui doivent avaliser ces accords de paix. Et jusque-là, nous n'avons que 4 pays. Il y a aussi de ce côté-là un grand travail à faire. Mais je me dis que la signature des accords de paix est une chose, mais la mise en œuvre en est une autre. Et il y a donc un autre travail qui doit suivre. On ne doit pas se croiser les bras et dire, se frotter les mains, dire, écoutez, nous avons signé des accords de paix, maintenant la paix vient. Non, la paix, c'est un comportement et chacun doit vivre la paix. On doit la sentir, on doit sentir que cette personne réellement veut la paix.
Il nous reste quelques minutes pour terminer cette émission. Florence Boloko, quel message pouvez-vous adresser à tous les auditeurs qui vous suivent en ce qui concerne la paix et le développement?
Pour ce qui est de la paix d'abord, je dirais que moi, je dois d'abord vivre la paix en tant qu'individu. Il faut que je sois en paix avec moi-même avant de pouvoir transmettre la paix aux autres. Mais si je vis une contradiction à l'intérieur de moi-même, quelle est cette paix-là que je vais apporter à l'autre? Et donc, on doit d'abord harmoniser ses vues en tant que soi avant de pouvoir transmettre la paix aux autres. Et donc, ce que nous avons à faire, nous avons signé plein d'accords dans ce pays. Ce que nous voulons, c'est voir appliquer ces accords de paix, qu'une véritable paix, qu'une paix effective revienne dans ce pays pour que la reconstruction dont on parle commence. Parce que ça ne vient pas de moi, mais c'est un adage qui dit que les capitaux n'aiment pas le bruit de bottes. Donc, nous avons besoin de la paix. Il faut que tout le monde soit en paix avec soi-même, vive en paix avec le voisin, vive en paix avec toutes les communautés au sein de la société, qu'il y ait la paix pour que nous puissions parler réellement d'un développement.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Florence Boloko Mularika, coordonnatrice de la Coalition des femmes pour la paix et le développement, est celle que Grand témoin recevait pour vous. Merci à Nadine Foula qui a réalisé cette émission et à Alain Goy qui en a assuré la technique. Cette émission est disponible sur le site de Radio Okapi, www.radiokapi.net, où vous pouvez réécouter les émissions passées de grands témoins. Merci et bonne suite de programme sur Radio Okapi.